Donc, je me réjouis de vous voir de si bonne humeur, par ce beau temps. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, ça risque d'être peut-être un peu long. Si vous ennuyez, essayez de me signifier d'aller plus vite. Je pensais d'abord parler du domaine des logiciels graphiques libres, mais je pense que je vais me concentrer plutôt sur le domaine des fontes et de la typographie. Ce sera déjà suffisamment vaste. Ça va parler de fontes, de web fonts, de fonts sur le web, tout cet écosystème qui s'est construit depuis le début des ordinateurs, en fait. Vu que depuis le début, il y avait besoin d'avoir des fontes. Tout au début, quand il y avait les premiers ordinateurs, tous les logiciels étaient gratuits et libres, par définition. Donc les premières fontes étaient aussi. Et ensuite, ça s'est complexifié. Et là, maintenant, on est à un moment où c'est un des moments les plus fun, je pense, pour travailler avec des fontes sur le web. En tout cas, c'est le moment où il y a vraiment beaucoup de possibilités qui s'ouvrent et beaucoup de trucs qui bougent. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont spécialement intéressés typographie, qui font des fontes, qui ont une licence Typekit ou licite, ou qui ont un gestionnaire de fontes installé, juste par curiosité.
Lidipolis.
Par exemple, voilà. Vous en connaissez un, c'est bien. Donc, le domaine du lead graphics, c'est une sorte de mouvement. C'est une sorte d'agglomération de plusieurs mouvements qui s'est concrétisé la première fois en 2006. En 2006, il y a eu une conférence à Lyon qui avait été lancée par des gens de la communauté du logiciel GIMP, qui est un éditeur d'images open source. Et ils ont fait un festival qui s'appelait Libre Graphics Meeting, donc une conférence d'un jour dans une université à Lyon où venaient parler des développeurs et quelques graphistes qui travaillaient avec ces logiciels, qui les développaient ou qui les utilisaient. Et ça, c'est un festival qui s'est reconduit chaque année en grandissant, qui a eu lieu chaque fois dans un endroit différent, une fois à Montréal, une fois à Bruxelles, une fois en Pologne. L'année passée, en 2013 à Madrid, j'y étais pour la première fois, donc qui réunit des développeurs d'une part des gros projets graphiques open source, c'est-à-dire des projets comme GIMP, Blender, qui est un gros logiciel 3D assez professionnel pour faire des films d'animation, Inkscape, qui est un logiciel, qui est un éditeur de vecteurs, un peu façon Illustrator, mais avec un développement très lent et une petite équipe derrière, quelques autres projets, certains portés juste par une personne et utilisés juste par une personne, certains avec une fondation derrière, financée par Google, donc toutes sortes de trucs. La chose qui m'a amené à participer à ce festival, c'était que j'ai présenté un projet que j'avais fait qui consistait à faire un livre de fonte open source. Et il y avait dans ce festival à Madrid, l'année en 2013, vraiment une bonne présence de typographes, des gens qui font des fontes open source, des gens qui font des logiciels, des éditeurs de fontes et ce genre de trucs. Et ça m'a permis de voir que c'est vraiment une communauté internationale qui bouge, qui se rencontre, et que c'est un secteur vraiment dynamique. Donc je vous avertis, c'est un sujet un peu confus, dans beaucoup de directions, donc j'espère que vous arriverez à suivre. Et là, j'amalgame en fait plusieurs fragments de présentation que j'ai fait dans différents contextes. Donc, ça, c'était mon introduction un peu personnelle dans cette histoire. Maintenant, une introduction plutôt historique, très rapide, du domaine des fontes libres. Comment ça a évolué historiquement? Et je pense qu'on va retomber sur les pieds avec des choses assez pratiques vers la fin. Ça, c'est une capture d'écran d'un logiciel Linux récent, très actuel. Quand vous l'ouvrez, sans avoir fait grand-chose, vous avez installé un logiciel Linux, vous ouvrez le gestionnaire des fontes qui vient avec, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de fontes préinstallées des police systems. C'est assez intéressant de voir d'où est-ce qu'elles viennent, d'où est-ce qu'elles descendent, qui les a fait, est-ce que c'est des fontes originales, est-ce que c'est des clones. À vue de nez, ici, il y a pas mal de fontes qui ressemblent les unes aux autres, des fontes bien sûr pour différents langages, hébreu, japonais, arabe. Donc il y a un courrier ici, il y a un truc qui ressemble également à du Times, il y a un truc qui ressemble également à du Helvetica, un truc qui ressemble aussi à du courrier. Un cas très typique, c'est que vous avez des dérivés de fontes historiques qui ont été créées il y a longtemps, qui ont été recréées par différentes fonderies, qui ont été copiées, bien copiées ou mal copiées ou améliorées. Un exemple, enfin une banque, une bibliothèque de fontes, c'est celle qui vient avec un système qui émane d'un système qui s'appelait TEC. C'est un système de mise en page de documents qui prédate InDesign et QuarkXPress de quelques dizaines d'années, qui a été fait dans les années 70 par un fou qui s'appelle Donald Knuth. C'est le gars qui est derrière. Et qui est révélé par les programmeurs comme une sorte de demi-dieu. Il a écrit une encyclopédie de 12 volumes jamais achevée qui s'appelle The Art of Computer Programming. Il voulait mettre en page ses textes, ses écrits, et il n'était pas content des logiciels de l'époque et de la typographie qu'il y avait à l'époque dans les années 70. Donc il a créé son logiciel de mise en page TEC. Et il n'était pas content de la microtypographie, donc il a créé son système de fonte, en fait, de représentation de fonte et de dessin de fonte, qui s'appelle MetaFont. Donc vous comprenez assez vite que c'est un fou. Et il est aussi pas mal reconnu par les hackers. Ici, au premier plan, vous avez Jacob Applebaum, c'est un hacker important du moment, qui évidemment est un fanboy et porte un t-shirt à son effigie. Et ici, c'est un exemple de récursion. Ça, c'est une fonte fameuse que lui a dessinée avec son système MetaFont, la magnifique Latin moderne. Et ça vous paraît être vaguement familier, c'est le genre de sources qui sont typiquement utilisées dans les universités, dans les départements de sciences, pour mettre en page leurs billets, leurs papiers scientifiques, leur doctorat, etc. Et donc, c'est des fonds qui viennent avec le système tech. Le système tech, il est toujours utilisé actuellement, notamment dans les branches mathématiques, parce qu'il y a des macros, des trucs qui permettent de bien mettre en page des formules, des équations. Et ça, à gauche, ici, c'est des commandes de son langage tech. Donc, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais imaginez-vous que vous utilisez InDesign, mais en ligne de commande. Vous entrez des commandes et ça formate votre document. Et donc voilà, ça c'est des commandes qui vont changer. Là ça va passer en italique, là ça va passer en autre chose. Bref. Vous influencez le rendu des fonds par des commandes. Ça c'est un autre exemple de dérivé sans complètement dénué d'originalité, mais à pure vocation utilitaire. C'est des fonds pour le système GNU Linux. Donc c'est des clones de Arial, Times et Courrier, avec les mêmes espaces métriques, donc dans le simple but de permettre de rendre des documents sur des systèmes Linux en gardant les mêmes espacements et sans qu'il y ait des retours de ligne différents. Ça, c'est une des importantes fontes, des premières fontes libres aussi, créées vers 2000, j'imagine, ultra classique dans l'aspect, mais assez esthétique. Elle a été adoptée par Wikipédia pour le logo. Et si vous allez actuellement dans une bibliothèque de fontes comme Google Fonts, qui contient 500 ou 600 fontes sous licence libre, vous trouverez aussi des fontes qui ont été faites par des vrais studios professionnels de création de fontes, placées sous licence libre et qui sont en fait des commandes. Donc, les studios ont été payés à leur tarif de studio pour créer des fontes pour des marques comme Red Hat, qui a commandé la gamme de fontes Libération. Donc Red Hat, c'est une des grandes boîtes commerciales qui vit en faisant du Linux, en vendant du support Linux, en vendant des distributions Linux, et donc ils ont leur système de fontes, qui est la gamme Libération. Un autre exemple, c'est la fonte PT Sans, qui a été commandé par l'État russe à un studio de typographie russo-californien. Et l'objectif ici, c'était de créer une fonte officielle pour la Russie, l'ensemble des fédérations, et de couvrir tous les caractères spécifiques qu'il y a dans les dialectes locaux russes. Il y a une version, bon ça c'est pas la version russe, c'est la version latine, en sans et en sérif, et en mono.
Puis, quand on parle de mono, c'est quoi réellement ?
Alors mono, ça veut dire monospaced, donc les espacements et la largeur de chaque glyphe est égale, ce qui fait que si vous faites de la programmation, c'est utile pour les gens qui font de la programmation surtout. Ou bien si vous voulez mettre en page un document où les positions doivent être les mêmes. Ubuntu, ils ont commandé une fonte assez spéciale pour leur marque, par le studio Dalton Mag. Et comme c'est une distribution Linux et que tout ce qu'ils font est open source, ben voilà la fonte, donc si c'est leur fonte corporate officielle, ben elle est open source et tout le monde peut l'utiliser. Là aussi, il y a une version monospace. Et dans les fontes libres intéressantes, il y a des fontes qui sont des pures créations faites par des passionnés qui avaient envie d'avoir leur fonte à eux et qui, pour des raisons idéologiques en général ou éthiques, l'ont passée sous une licence open source au lieu de la garder dans leur coin et la vendre à 10 personnes. Donc un exemple, c'est Inconsolata qui a été designée grâce à une bourse c'était lié aussi à la communauté tech, il me semble, par un type qui a inventé notamment un système de dessin vectoriel de courbes, pas Bézier, mais basé sur un autre modèle avec des spirales, qu'il a appelé Spiro et qu'il a intégré dans toutes sortes de logiciels, à Inkscape et à FontForge notamment. C'est apparemment intéressant pour un certain type de dessin de fonte, et donc lui l'a utilisé. Donc cette fonte Monospace qui était une fonte de programmation, destinée à la programmation, mais qui est en fait tellement élégante qu'on pourrait l'utiliser pour mettre en page un texte littéral. Quant à elle, c'est un projet de diplôme d'un étudiant qui a étudié dans l'une des deux ou trois universités qui ont vraiment une formation spécifique de type design en Angleterre, à Reading. Et son travail de diplôme, donc c'était ça, une fonte sans sérif, moderne, optimisée pour les interfaces du genre smartphone. Cette fonte, elle a suffisamment plu aux gens de la communauté libre que ça a été adopté comme fonte système par défaut de GNOME, qui est le principal interface Unix de Linux. Donc c'est devenu la fonte par défaut. Une raison qu'ils ont adopté ça aussi, c'est que voilà, ça avait été développé sur un modèle open source, ils partageaient les sources, ils mettaient le code sur GitHub, pardon. Le nom de la fonte, Cantarelle. Et un dernier exemple de ce genre de projet personnel intéressant, c'est Gateium, qui a aussi été fait comme projet de fin d'études d'un gars dont j'oublie le nom, qui a travaillé dans une organisation qui s'appelle SIL, qui est une organisation à vocation religieuse. Il y a pas mal de gens à tendance un peu religieuse parmi les photographes, Donald Knuth lui-même. Il est aussi très pratiquant les textes là-dessus. Et donc cette fondation, SIL, c'est une organisation à vocation religieuse et humanitaire qui agit dans différents endroits du monde. Et donc ils étaient intéressés aussi à avoir des fontes qui couvrent des langages très larges. Et ils ont créé une licence qui s'appelle la SIL Open Font License, qui est devenue la principale licence libre pour les fontes, spécialement écrite et optimisée pour protéger les fontes. Et donc Gentium, c'est un projet qui a été fait par un gars qui travaille là-bas et qui a co-écrit cette licence. Et c'est une fonte qui a gagné quelques prix et qui est assez intéressante, basée sur l'idée un peu d'inspiration calligraphique, donc un peu comme, comme un contraste que vous avez quand vous dessinez à la plume. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais pour l'instant, si vous étiez web designer entre 1995 et 2008, ça vous intéressait moyennement tout ça, parce que les fonts que vous pouviez utiliser dans vos projets web, c'était en fait celle-ci, en gros. Que je ne comprends plus. Des très bonnes fontes, hein, à part ça. Arial, qui a un côté conflit éthique discutable, avec l'histoire de.
Pardon ? C'est quoi le conflit éthique discutable ?
Eh bien, l'histoire, c'est que. C'est considéré généralement par les typographes comme un clone assez évident de Helvetica, avec des modifications qui ont été faites exprès juste pour faire des modifications, pas pour des raisons de cohérence, mais pour avoir des. Pour que ce soit pas la même et qu'on ne soit pas obligé de payer des frais de licence à la compagnie qui, d'origine suisse qui vient de voir. Ce qu'Apple a fait. Verdana et Georgia, ce sont deux fonds qui ont été faits par un certain Carter, qui est un des grands typographes de l'Amérique. Vous avez cours là-dessus. Bref. Courrier, est-ce qu'on connaît l'origine des courriers ? Globalement, on a personne à parler. Donc ça, c'était des fontes qui étaient considérées comme des fontes web safe. Et pendant très longtemps, on a dû se résoudre à utiliser celle-ci et éventuellement des fontes alternatives avec des fallbacks. Enfin, vous connaissez le principe de CSS. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que déjà en 98, donc un peu après la sortie du CSS, il y avait déjà une proposition de pouvoir intégrer des fontes depuis une URL et les faire charger par le navigateur avec une syntaxe qui était proposée comme ça, telle qu'elle dans cette spécification. Donc vous déclarez le nom de la fonte que vous voulez et vous indiquez l'URL. Et pour une certaine raison, ça ne s'est pas fait, en tout cas pas de manière conséquente. Microsoft, de manière exceptionnellement, ils ont été en avance sur les autres navigateurs. Déjà dans Internet Explorer 5, je pense, ils avaient intégré la possibilité de charger un format de fonte, sauf qu'ils ont créé leur propre format à eux, qui personne d'autre ne comprenait, dans le but de pouvoir mettre des protections, des DRM, des mesures anti-copie dedans. Et donc ça n'a pas été adopté par les autres, qui étaient à l'époque Netscape, et ensuite Mozilla Firefox. Et il a commencé à y avoir des négociations entre les créateurs, les gens qui programment les navigateurs, donc Netscape, Internet Explorer, etc., et les représentants de la profession typographique, donc les agences qui font les fontes, pour commencer à leur faire entrer un peu d'idée qu'on aimerait quand même pouvoir que les fontes soient distribuées par le web, ce qui faisait extrêmement peur aux typographes qui sont une branche professionnelle assez particulière. Allez. Étant donné que l'écriture et la typographie reposent sur des principes qui changent peu à travers les siècles, pour avoir un livre bien visible, vous allez utiliser des fontes qui sont carrément proches de celles de la Renaissance. Je pense que ça crée un mindset un peu résistant au changement dans cette profession. Et donc l'idée que leur fonte allait être distribuée par le web, ça faisait très très peur. Et en gros, on considérait que les fontes, c'était les objets numériques un peu les plus protégés. Comme il paraît que le tonnerre, c'est un des produits les plus chers par rapport au poids. Si vous voulez faire du trafic, ça peut être une idée. Par rapport à leur poids numérique en kilobytes, les polices typographiques sont en général des objets très chers et très précieux. Donc, il a fallu pas mal de démarches un peu dans les coulisses pour faire entrer l'idée dans la tête des typographes et des fournisseurs de fontes. Et ensuite, en 2008 et 2010, dans un laps de temps en fait assez court, les autres producteurs de navigateurs, donc Apple avec Safari, Mozilla avec Firefox, Opera et Chrome, ou intégrer la possibilité de charger les fontes avec cette syntaxe CSS Action Face. Et normalement, quand ces quatre navigateurs intègrent des nouveautés, il faut attendre 10 ans pour que ça entre dans Internet Explorer, et donc 30, 40, 50, 60% de web. Sauf que ici, on était dans la situation exceptionnelle que Internet Explorer gérait déjà ça depuis assez longtemps. Et donc tout à coup, en 2 ans, c'est devenu compatible avec à peu près tout. Bref, c'est vraiment une révolution. Dans les possibilités graphiques du web, ça c'est à quoi ressemble la déclaration Full Face. Vous avez vu ça déjà ? Ok. Et ça c'est ensuite ce qui a rendu possible vraiment l'utilisation, c'est que des gens comme le fondateur de Typekit, c'est une startup qui a été créée pour pouvoir licencier les fontes de manière simple pour les graphistes. Et donc il négociait en fait, il faisait le travail très compliqué de négocier
avec les agences qui font les fontes et de proposer un package pas trop cher pour les graphistes qui veulent ensuite les utiliser sur les sites. Ça a bien marché, ils ont été rachetés par Adobe. Il y a FontsQL qui est un projet un peu similaire, mais uniquement avec des fontes libres sous des licences libres qui permettent l'usage commercial. FontDeck, qui est un modèle pas par abonnement et qui vous vend chaque fonte pour un prix fixe et vous pouvez l'utiliser à l'éternel ensuite. WebType, un autre service du même style. FontSpring, qui fait partie, qui est lié à FontsQL, mais qui propose aussi des fontes payantes avec achat unique. WebLink, qui propose des abonnements, qui a des. Qui a une librairie de fonte un peu différente de celle de TypeKit. Bref, tout ça, c'est des initiatives qui ont permis vraiment à la source de prendre, et aux fontes de prendre vraiment d'assaut le web et de s'implanter très rapidement. Et de dynamiser, par la même occasion, la création de nouvelles fontes, évidemment, parce que ça ouvre un marché beaucoup plus large que le marché traditionnel de l'imprimé. Dans tout ça, les Google Web Fonts. Google a lancé un projet de fonte sur le web. À l'époque où je prenais cette capture d'écran, il y en avait 500. Ça a commencé en 2010, je pense, donc c'est vraiment assez récent. Et c'était un projet à la base destiné à fournir des fontes à Google Docs. C'était une phase où Google lançait vraiment pas mal de projets un peu expérimentaux. Il y a eu Google Wave aussi à l'époque qui s'est cassé la figure. Et quelques autres trucs. Ça, c'est du technique. Ça, c'est une citation qui vient d'une émission super intéressante de Place de la Toile qui parle de la typographie du web. Et un gars qui s'appelle Frank Adebiyai, qui a une fonderie libre qui s'appelle Gelbetting Type Foundry, discutait un peu de l'enjeu de Google là-dedans. Pourquoi Google veut nous aider à faire de la typographie, c'est pas vraiment. Quel est l'objectif de Google derrière tout ça? Et son interprétation, c'était que pour Google, il y a un grand intérêt à rendre le web plus indexable et donc éviter que les graphistes mettent des grosses images du texte équivalent que Google ne peut pas analyser, plutôt qu'ils utilisent des fonts et que tout soit en fait du vrai texte. Comme ça, Google peut mieux indexer, mieux servir la publicité et mieux faire son travail d'analyse. L'importance de Google Web Fonts est aussi vraiment très grande en termes de nombre. Donc, parmi eux, ils font des statistiques et des publient. Donc, on voit qu'il y a des millions et des millions d'accès à ces fonts. Les fonts les plus populaires sont téléchargées et accédées des millions de fois par jour. Et Google a payé certains graphistes à donner des fonts. Donc, il y avait une contribution financière, mais elle était extrêmement faible par rapport aux tarifs normaux pour la création des fonts, de l'ordre de 1 000 $ la Grèce, 1 000 $ une fonte avec bold, italique, etc. Ça a été vu évidemment de manière très critique par une bonne partie des typographes qui ont considéré que ça leur sape leur profession et que ça reste écrit, alors que Google n'a rien fait là-dedans. Et pas mal de gens aussi qui aiment donner leurs opinions sur les choses typographiques, comme par exemple Mathieu Patrick, qui est un designer et qui a travaillé pour Red Hat notamment, et qui a un blog sur ces questions, a fait une grosse critique de la mauvaise sélection qualitative des Google Fonts, où beaucoup de choix étaient vraiment pauvres graphiquement, et donc que c'était un projet mal managé. Un détail intéressant, c'est que ce projet Google Fonts, il est géré par ce même Dave Crossland, qui est le gars qui avait fait la fonte Cantarelle à la University of Reading. En fait, à la sortie de ses études, ça c'est lui qui a photographié avec les témoins, le dernier livre graphique qui est à la titre. Et donc lui, il a été embauché pour faire ce projet Google Fonts, et il a extrêmement bien managé. Donc effectivement, il a réussi avec un assez petit budget à avoir une bonne base de fonts en les achetant auprès de designers de fonts en Argentine ou en Ukraine. Et en prenant aussi pas mal de fonts de ses collègues alumni, qui ont donc aussi des travaux d'étudiants de la University of Reading, qui ont soumis leur travail d'études à sa bibliothèque Google Fonts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de gérer ce projet, ce type, il a fait un énorme travail d'activisme pour faire croître et améliorer techniquement tout le domaine, enfin tout le workflow de la création typographique open source.
Exemple. Donc, il fait des workshops dans lesquels il enseigne la création de fonds en 2 ou 3 jours pour des gens qui soit connaissent un peu ou qui connaissent le design et qui ne connaissent pas encore la création de fonds, en leur expliquant que c'est pas très compliqué. Ça consomme un peu de temps.
J'ai suivi un workshop qu'il a donné en 2012 dans un festival incroyable qui s'appelle Grand Prix de Lure en France. Si jamais ça vous intéresse, essayez de faire le lien, vous pouvez vous envoyer là-bas. C'est un truc qui se passe en été, en fin août.
En Provence.
Donc, il a fait fructifier le projet Google Fonts en arrivant à bien serrer le budget de Google. Il a compris en fait très vite que quand on est dans Google, surtout dans la phase expérimentale qui est un peu finie maintenant, avec le changement de CEO, il ne fallait pas aller demander un budget, mais il fallait en fait le dépenser et ensuite mieux vous demander pardon après pour faire des demandes et ralentir le truc. Et donc, il a réussi à financer toutes sortes de développements. Un exemple, c'est qu'il a. Il a pris en main le développement du principal éditeur de fonte libre qui s'appelle FontForge, qui est un de ces logiciels libres qui a été créé par une personne pour satisfaire ses ambitions mégalomanes et ses besoins spécifiques. Et donc, c'est un militaire retraité américain qui, comme projet de retraite, a créé un truc qui s'appelle FontForge. Et qui a eu une interface d'utilisation assez difficile, et dont le développement stagnait considérablement. Donc, Dave Crossland, il a injecté des fonds pour empêcher les gens pour travailler dessus, et l'améliorer, et le rendre davantage utilisable sur les plateformes Mac, et sur les plateformes. Sur la plateforme Mac, donc c'est là qu'on travaille la plupart des artistes. Son grand projet, c'est de le rendre plus compatible aussi comme une sorte de web app, avec une interface web, parce que c'est là que le développement se passe actuellement. Il a lancé un projet qui s'appelle TTF AutoHint, qui est en fait une des parties les plus ennuyeuses et les plus chères quand vous travaillez sur des fonds professionnels. Ah voilà, FontForge. Voilà l'interface. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait natif à CoSX. C'est une de ces applications Linux portées sur différentes plateformes, mais où vous devez d'abord vous habituer un peu à l'interface. Les commandes, commandes, etc. ne vont pas toujours fonctionner. Et vous devez chercher un peu, par exemple ici. Il faut que je comprenne d'abord comment je vais arriver à mon dossier. Et je vais ouvrir une fonte, je vais vous montrer. Donc ça, c'est une fonte qui a été publiée sur Google Web Fonts, qui a été designée par un alumni de la University of Reading aussi. C'est son travail de fin d'étude. Et c'est une fonte où il manquait 2-3 caractères français. Il manquait le CCI et le OE, notamment. Et le gars, lui, il est parti en Inde, où il travaille maintenant dans l'industrie de l'imprimerie indienne. Et il fait des fontes indiennes et tamines. Et donc, visiblement, il n'avait plus le temps de s'en occuper. Donc c'est une fonte que j'ai repris. J'ai rajouté un CCI. En le copiant à peu près depuis une autre fonte et en le modifiant un peu. Donc si vous... C'est un peu de l'édition vectorielle, quoi. Vous avez des formes, vous avez des points d'ancrage, vous avez des outils spécifiques, vous pouvez faire du copier-coller, et à la fin, vous pouvez générer une fonte. Ça, je l'ai. J'aurais pas osé si j'avais pas suivi ce workshop, mais en suivant ce workshop, la première chose qu'on voit, c'est que, voilà, c'est pas très sorcier. Vous dessinez, enfin c'est du dessin vectoriel, il faut faire beaucoup de copier-coller parce qu'une lettre va générer d'autres lettres. Et ensuite vous générez les fontes, vous les testez, vous les dévoyez, etc. etc.
Oui. Et là le dessin vectoriel, il se fait aussi là ou il se fait à partir d'un autre logiciel?
Il peut se faire dans d'autres logiciels, vous pouvez l'importer, okay. Et exporter. Vous pouvez utiliser ça ensuite pour faire des ajustements entre les lettres par exemple.
Donc bref, ça c'était juste pour vous montrer. Une des pires choses, paraît-il, quand vous faites des fonds professionnellement, c'est pas le dessin, en fait, c'est le curling, donc le positionnement entre les différentes combinaisons, les paires de caractères, qui prend du temps parce qu'il faut en tester plein. Et encore pire, c'est ce qu'on appelle le hinting, c'est-à-dire l'optimisation au niveau des pixels pour que ça rentre bien sur des.
Quand c'est sur une petite fonte, sur un écran, sur un système qui ne gère pas ça automatiquement, c'est-à-dire sur Windows. Et donc, ça, c'est un travail vraiment de fou. Qui prend énormément de temps et où il faut être très spécialisé. Donc une des choses que Dave Crossland a lancé, il a trouvé quelqu'un pour programmer un logiciel pour faire ça de manière automatisée, de manière suffisamment propre que ce soit acceptable. peut-être pas pour les purs typographes les plus passionnés, mais en tout cas pour la plupart des graphistes et des utilisateurs finaux. Et donc c'est un projet qui s'appelle TTF AutoHint. Qui a été financé par un Kickstarter auquel Dave a contribué, qui a été financé par Google et Adobe et quelques autres boîtes, entre autres. Voilà. Et qui permet donc. Qu'est-ce qu'il y a ?
Non.
Qui permet donc d'automatiser cette partie-là qui coûte en général cher et qui prend beaucoup de temps. Et une des choses qui l'intéresse le plus actuellement, c'est ça. Ça, c'est un projet que j'ai vu présenter à ce NGL à Madrid, qui était présenté là par un designer du Ricois. Et c'est un projet qui s'appelle Metaflop. Et c'est une interface online pour modifier des fonts de manière paramétrique. De manière paramétrique, ça veut dire en modifiant des... en modifiant des unités, comme ça. Là je viens de faire une opération random avec le bouton flop it. Je peux travailler en mode nerd aussi. Je vais faire un reset. Enfin, vous voyez le truc. Hein. Et une fois que vous avez généré une fonte qui vous plaît bien, donc ça va l'appliquer sur tous les glyphes, bien sûr. Et une fois que vous l'avez généré, vous pouvez la télécharger en webfont ou en OpenType. Et vous l'exportez, vous la téléchargez. Donc ça, c'est un projet assez bluffant. Et à part ça, ils ont appelé ce projet Metaflop. Pardon ? Non, j'avais l'impression que vous... Ok. Donc, ce projet s'appelle Metaflop en référence à notre ami Donald Knuth et son format de fonte Metafont. Parce que c'est en fait ça qu'ils utilisaient. Ils ont étudié donc un peu la spécification Metafont, qui est une spécification paramétrique, donc qui permet de faire des variations en changeant des valeurs, qui vont rajouter des séries plus ou moins grandes, etc., etc. Et donc ils ont analysé ça et ils ont fait une interface que Metafont n'a pas, et c'est pour ça que c'est peu utilisé. Et donc ça, c'était un premier projet assez fun, qui permet de faire des fonds rigolotes, disons. Et ils ne se sont pas arrêtés là, mais ils sont en train de faire maintenant une version 2 à location vraiment professionnelle, dont le but est de pouvoir générer facilement des familles de fonds. Dave Crossland, quand j'ai parlé à Madrid, c'était aussi ça son orientation, c'est que actuellement, il pense vraiment en termes de famille et pas tellement en termes de glyphes. Donc les éditeurs classiques de fonts qu'on a connus jusqu'à maintenant, c'est plutôt les éditeurs qui travaillent à l'échelle de la lettre et du mot. Et ce qu'il aimerait qu'on crée des outils pour générer, pour travailler les fontes au niveau des familles, donc les familles, les variations de graisse, les variations de style sur une fonte donnée. Et donc Metapolator, c'est une évolution de Metaflop. Ça va fonctionner aussi sur un serveur. Et c'est en open source, en fait, c'est sur GitHub, et si vous voulez compiler un peu, enfin si vous voulez installer un serveur Node.js, qui est la technologie sur laquelle ça fonctionne, vous pouvez le tester. Et le principe, en gros, c'est que vous chargez une fonte, ça utilise un format de fonte qui s'appelle UFO, qui est le format moderne interopérable qui est utilisé par 2-3 éditeurs modernes, un qui s'appelle RoboFont, un qui s'appelle GIF, qui sont des éditeurs propriétaires, et par FontForge aussi, récemment. Et donc, quand vous chargez la fonte, au lieu d'analyser simplement le tracé vectoriel du pourtour, il analyse en fait la fonte pour comprendre son squelette. Et donc les transformations que vous allez faire ensuite, elles se font pas juste sur les bords, mais vraiment sur la nature de la fonte. Et dans la présentation qu'ils ont fait, ça c'est l'interface, ils ont montré des exemples de réalisation qu'ils ont utilisé dans des projets réels de publicité, de packaging ou de marketing, qui est vraiment bluffant. Donc ça, c'est un truc super intéressant à garder à l'œil. Ça, c'est leur roadmap. Ils vont le présenter le 14 juin à Zurich, à une journée sur les archives. Et ils vont sortir des versions bêta. Je ne sais pas exactement quel est leur modèle financier. Je pense qu'ils vont proposer une version payante avec l'abonnement où vous avez accès au serveur et une version open source que vous pouvez prendre et installer vous-même. De manière curieuse, en parallèle, il y a un deuxième projet très similaire qui s'est fait récemment. Prototypo, vous l'avez vu, qui a mené récemment une campagne Kickstarter qui a tout bien marché. Ils ont eu trois fois le résultat qu'ils espéraient. C'est deux graphistes programmeurs de Lyon. Et ici aussi, le principe, c'est de faire un éditeur qui travaille sur l'ensemble de la fonte à l'échelle de la famille, sur un modèle assez similaire, même si dans le fonctionnement technique profond, leur modèle est différent. Les Zurichois avec Metacolator, ils utilisent ce langage Metafont, des années 70. Eux, de ce que j'ai compris, ils utilisent la spécification SVG, qui est un format vectoriel du web qui peut aussi permettre de générer des fontes. Et donc voilà, c'est aussi un projet qui est en train de se développer et qui promet des workflows intéressants.
Et ça, c'est la mode des
photos. Pardon ? Je pense pas. Bon, mais, premièrement, il faut déjà charger quelque chose là-dedans. Il faut commencer à partir de quelque chose. Mais ça va accélérer nettement le travail du travail rend mieux, consiste à faire des variantes. Au contraire, c'est un outil qui donne beaucoup de puissance à des petites unités qui ont un temps limité.
Je pensais que la qualité finale d'un fond, elle est qualité à peu près la même que quelqu'un qui aura passé 3 ans sur sa typo à la main, dans son fond là, tout seul.
Et ben, l'expérience, c'est toujours. Pas vraiment remplacer par la technique.
Oui,
c'est un outil. Mais il y a différentes approches pour les fonds. Un exemple aussi, c'est dans la communauté des fonds libres, il y a pas mal de gens qui défendent justement l'approche un peu punk. On fait du copier-coller, enfin on fait des réinterprétations. C'est un peu les stratégies de l'art contemporain aussi. Par exemple, ça, c'est la note courrier essence. C'est une courrier à laquelle on a coupé des embattements. Et ça, c'est une fonte qui a été faite par des graphistes bruxellois qui s'appellent OSP, Open Source Publishing, et qui sont dans cette orientation un peu punk, minimaliste. On récupère en Russie, on fait une modification minimale avec un effet maximal. Donc, par exemple, on coupe les pattes du courrier et on change complètement son caractère.
Ils ont fait.
Ouais. Voilà la méthode. Ouais. C'est très simple. Donc ils ont fait des fontes comme ça, par exemple, pour des festivals, où c'est, à la base, c'est une fonte open source standardisée, à laquelle ils ont rajouté ici des détritus, enfin des effets graphiques. La note courrier sens. Alors, j'ai pas installé celle que je cherchais. Si vous avez du temps en juillet, allez à Bruxelles parce qu'ils font une summer school. Une semaine ouverte d'atelier, de trucs.
C'est quand ?
C'est en début juillet. Ça, c'est une fonte qu'ils ont digitalisée à partir d'une fonte existante pour un projet d'affiche où ils ont fait une recherche sur les fontes qu'ils voyaient sur les boutiques dans les rues à Bruxelles. Et ils ont trouvé que en fait, plein de ces fontes venaient d'un vendeur de décollants qui avait dessiné ces fontes dans les années 70. Il est mort, c'est sa vie, c'est un magasin. Et ils ont digitalisé la fonte qui ressemble à ça. Et ils l'utilisent maintenant comme leur fonte corporelle pour pas mal de signalétiques. Un truc intéressant dans le domaine des fontes libres, c'est que voilà, les gens partagent les sources. Donc c'est facile de récupérer les sources d'une fonte, de la modifier et de publier vos modifications. Ça, c'est par exemple les fontes de OSP. Ils ont un site Git avec les sources. Et donc là, vous trouvez tous les fichiers sources modifiables. Et ça vient en bas.
Et donc, le dernier truc que je vais vous montrer, après c'est fini, c'est la...
C'est ma variante de Carla. Donc Carla, c'est une fonte que je vous mentionnais, qui ressemble à ça. C'est une des rares fonds sans salif, grotesque, qui sont bien, qui sont open source. Et donc ça, c'est la version où j'ai rajouté 2-3 caractères pour la faire fonctionner en français. J'ai mis ça sur GitHub, et depuis, il y a 2 personnes qui ont rajouté par leur initiative des autres caractères qui manquaient, le caractère du Bitcoin, et de l'euro, et de quelques autres monnaies.
Quand les gens ils rajoutent comme ça des choses,
oui.
Ça se voit pas du tout.
C'est-à-dire
ça a été fait par quelqu'un.
Alors si c'est beaucoup de caractères, je pense que oui. Mais si c'est dit, okay. Ça passe. Et si c'est un caractère genre euro, à partir du moment qu'on respecte l'aspect général, je pense que ça peut passer. Par contre, il y a un Allemand qui m'a demandé si je pouvais pas rajouter le S7, le S allemand. J'ai pas fait parce que. Il faut que je réfléchisse un peu comment je vais prendre. Là, parce que là, il y aura quand même de l'originalité, vu que ça ne ressemble pas trop aux autres lettres. Donc là, ça va commencer à dégénérer, je pense. Est-ce qu'il y a une description des changements? Non. Ah ouais, il a rajouté des signes de ponctuation, donc des apostrophes. Y a-t-il des questions que je n'aurais pas abordées?
Vous utilisez quoi pour gérer une fonte sur un fondier?
Alors, il y a une application que j'aimais bien. Qui est ça, Fontcase,
qui est plus supporté maintenant, ils l'ont retiré. C'est un studio, c'est les gens qui font aussi Sketch, si vous connaissez. Un petit éditeur vectoriel assez sympa, Mac. Et ben, ils ont fait ce gestionnaire qui était tout bien, assez simple. Mais ils ne maintiennent plus, parce qu'apparemment c'est trop en conflit avec certains changements linguistiques. Il semble que c'est une isolation de votre question.
Mais du coup, on peut pas le télécharger, quoi.
Non.
Ça, c'est de
l'exclusivité. Ouais, c'est une idée. Donc, ouais, le Google Docs.
C'est sympa aussi.
Il y en a quelques autres extensibles sous pied. C'est utile quand vous commencez à avoir vraiment beaucoup de fonte pour les activer et désactiver. Mais ceci dit, vous pouvez aussi le faire avec le vous connaissez. Il y a un gars qui s'appelle, un des 2 contributeurs à Carmilla, c'est un gars qui s'appelle Raphaël Bastide, qui fait des workshops comme celui-ci, et qui, au dernier GEM, a présenté un projet qu'il a fait, qui est ça, Use and Modify, et qui est un petit générateur de site web pour faire une collection de fontes que vous choisissez. Des fontes libres, clairement. Et qui vous permet de partager comme ça une sélection de fonds. Ceci dit, bon, c'est plutôt fort. Pour partager en extérieur, c'est pas tellement. C'est la fonction de
Je
Alors, il est 14h, je vais me laisser un peu de temps pour travailler quand même. Donc, merci de votre attention. Et pour le reste de l'après-midi, je suis à disposition pour vos questions sur vos développements personnels.